RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfand.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Scandinavie, où les Vikings sont de retour. Des groupes de passionnés célèbrent cette parenthèse héroïque de l'histoire scandinave. Ils se retrouvent dans des festivals, s'affrontent en batailles rangées, organisent des mariages ou des baptêmes païens. Les Vikings sont aussi présents à la télévision, au cinéma, dans les musées ou encore sur la scène musicale. Mais les guerriers barbus coiffés de casques à cornes sont aussi revendiqués par des descendants plus encombrants, comme les militants néo-nazis ou des groupes d'extrême droite. Entre intérêt pour l'histoire et fièvre nationaliste, ce regain d'intérêt pour les Vikings fait aussi écho aux polémiques qui agitent aujourd'hui nos sociétés. Viking, le retour, c'est un grand reportage de Frédéric Faux.
Nous sommes dans une forêt de Skåne, au sud de la Suède. Ce week-end, les membres du groupe viking Alsingarna se sont rassemblés pour s'entraîner au combat. Deux bandes, armées de haches ou de lances, vêtues comme à l'an 1000, vont se faire face. Les règles de la bataille sont strictes pour éviter les blessés, mais elles n'empêchent pas dans le feu de l'action quelques contusions. Johan est musicologue dans le civil et guerrier viking le week-end.
La première arme que l'on utilise généralement, c'est la hache d'un mètre, ainsi que le bouclier. Le groupe que vous allez rejoindre va vous apprendre comment faire un bouclier. Quand on se bat dans la forêt, il faut être léger et rapide. Quand j'essaie de toucher quelqu'un, il va bloquer avec le bouclier. Aujourd'hui, dans notre exercice, il y a une équipe qui occupe une position dans la forêt et notre équipe qui les attaque. Voilà, ils sont sur cette colline là-haut.
Chaque combattant touché par une épée ou une hache s'écarte de lui-même du champ de bataille. Et au bout d'une vingtaine de minutes, le verdict tombe.
Voilà, je crois qu'on a gagné.
De retour au campement, l'illusion continue. Les tentes, en feutre ou en toile de lin, sont disposées autour d'un feu. Les femmes tissent ou travaillent le cuir. Les guerriers les plus fatigués s'allongent sur des peaux de bêtes, tandis que les autres font cuire un morceau de viande à même la braise.
Là, nous avons assez de tentes pour faire un cercle et essayer de se couper un peu du monde extérieur. Pour vraiment ressentir cette époque viking, écouter le feu, la voix des gens, les oiseaux, le vent.
Johan en est venu à fréquenter les groupes vikings par la musique. Puis les sensations du combat ont vite pris le dessus.
Tous les week-ends, je m'entraîne, je m'habille en viking et je sors, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, peu importe. L'été, je participe à ces grands rassemblements avec d'autres vikings. On fait des camps. Vous savez, la première fois que vous participez à une grande bataille, avec des centaines de personnes qui marchent sur la plaine, que vous sentez la foule des guerriers, l'adrénaline, vous savez que c'est quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs.
Son ami Saga participe aussi aux batailles, comme les femmes à l'époque viking. Mais son intérêt pour Alsingarna ne se limite pas à ses face-à-face musclés.
Moi, ça a commencé très jeune, à l'âge où on aime tout ce qui est princesse. Mais j'ai voulu savoir à quoi ressemblaient vraiment les princesses du Moyen-Âge. J'ai trouvé ce groupe de vikings et j'ai commencé avec le combat, puis les habits, la nourriture. Tout s'est enchaîné comme ça. Je fais les habits moi-même.
On a des personnes dans notre groupe qui sont très intéressées par la fabrication des vêtements, qui vont directement aux sources historiques. Saga est l'une d'entre elles. Ça fait vraiment partie de l'identité de notre groupe, car nous attirons les guerriers, mais aussi ceux qui ont un intérêt pour l'histoire et veulent faire les choses correctement.
Des groupes comme Alsingarna se comptent aujourd'hui par dizaines en Scandinavie ou en Grande-Bretagne. Ils célèbrent cette parenthèse héroïque de l'histoire scandinave qui a vu ses Normans, entre le 9e et le 11e siècle, écumer les mers du Bosphore jusqu'au continent américain, 5 siècles avant Christophe Colomb. Ils se retrouvent dans des festivals, s'affrontent en batailles rangées, organisent des mariages ou des baptêmes païens. Mais parfois, ils ne se limitent pas au seul folklore. Des groupes plus engagés, plus radicaux, font aussi revivre les rites et les cérémonies de l'ancienne Scandinavie. Hey, C'est le cas de Nordiska Asa Samfundet, qui a obtenu le statut d'organisation religieuse en 2016. Ces 1400 fidèles invoquent les anciennes divinités nordiques en chantant et en buvant dans de longues cornes de vache, comme on peut l'entendre sur cette vidéo que nous montrent Kaisha et Peter.
Hey!
Hey!
Hey
Kaisha,
hey Peter.
Les deux prêtres nous reçoivent dans un appartement de la banlieue de Stockholm. Sur la table de la cuisine sont disposés des drapeaux glorifiant Lazatru, c'est le nom de l'ancienne religion nordique, et quelques instruments du culte.
We have ceremony ring.
On a un anneau de cérémonie. Je fais le tour du cercle des fidèles et je leur demande de prêter serment devant Tyr, le dieu de l'honneur et de la justice. Chacun met une main sur l'anneau et dit « Vive Tyr !» Après, on commence la cérémonie avec ça. C'est un marteau de cérémonie.
This is a ceremony hammer, Thor Mjölnir.
C'est le marteau de Thor, le manche à la forme d'un loup.
It's one of Odin's wolves.
C'est l'un des loups du dieu Odin. On présente le marteau quatre points cardinaux pour inviter les dieux dans notre cercle à la cérémonie. C'est souvent Odin et sa femme Freya.
And his wife Frigga.
Odin est le roi des dieux. Freya est la déesse de l'amour et de la guerre.
And war goddess.
Ce groupe a lancé une collecte pour bâtir son propre temple dédié à l'ancienne religion nordique. Car pour Kaisha et Peter, cette dernière est tout aussi légitime que n'importe quelle autre croyance.
Quand les gens savent que vous croyez en Lazatru, ils vous demandent si vous croyez vraiment que Thor est là-haut dans le ciel, qu'il provoque le tonnerre et lance des éclairs. Et ils rigolent en disant ça. Moi, je leur réponds, croyez-vous que Jésus marchait sur l'eau? C'est la même chose.
Yes, I believe it.
Moi, je crois à Lazatru. À l'âge de 16 ans, j'ai vu une émission à la télé sur Lazatru et j'ai su dans mon cœur que c'était la bonne chose pour moi.
Cette renaissance viking, quelles que soient ses formes, amuse Gunnar Andersson. Cet archéologue et conservateur au musée historique de Stockholm ne nie pas que cette époque soit bien la plus emblématique de Scandinavie. Elle a notamment semé la région de buttes funéraires et de pierres runiques. Cette passion autour des Vikings en ce début de XXIe siècle est donc justifiée, même si elle a tendance à déformer la réalité historique. Les rites pratiqués par les nouveaux fidèles de Lazatru n'ont rien à voir avec ceux du Xe siècle, sur lesquels on sait d'ailleurs très peu de choses. Les reconstitutions de batailles et de campements vikings, quant à elles, prennent aussi de grandes libertés avec la réalité historique.
Tous ces groupes, comme Alsingarna et d'autres, sont très intéressés par les temps anciens. Ils veulent vivre comme des vikings. Mais quand ils font des répliques d'objets, ils ne sont intéressés que par les armes et les bijoux. Tout ce qui est fait en métal, les objets en bois, comme les bols, les tables de jeu, les objets de la vie quotidienne, ils ne les regardent même pas. Ce n'est pas très équilibré. On le voit aussi dans le fait que pour eux, toute la vie des Vikings tournait autour des combats. Alors que dans leur vie quotidienne, c'était des paysans qui partaient épisodiquement en expédition sur des bateaux pour piller, commercer. Les deux choses étaient très liées à cette époque. Oui, il y avait une classe sociale de guerriers, mais vous pouviez quitter ces groupes et retrouver votre vie à la ferme.
Même s'il malmène la réalité historique, force est de constater que cet engouement est devenu universel. Les Vikings sont partout. Ils s'affichent dans une série télévisée à gros budget et au cinéma avec Thor. Ils s'invitent dans les romans populaires, les jeux vidéo ou la scène musicale avec le viking metal. Depuis 2012, le musée historique de Stockholm fait aussi voyager dans le monde entier une exposition itinérante consacrée aux Vikings qui a déjà réuni plus de 2 millions de visiteurs. Et la capitale suédoise, elle aussi, n'échappe pas à la mode. Il y a à Stockholm un musée viking, un restaurant viking et même une course d'obstacles baptisée Tough Viking, le rude viking, qui réunit des milliers de participants. Dans cette version nordique du parcours du combattant, il faut nager dans des lacs de boue, franchir des murs à la force des bras, sauter des fossés. S'il est peu probable que les Vikings se soient entraînés de cette façon-là, David Klint, le fondateur de l'épreuve, n'a pas choisi le nom Tough Viking par hasard.
En Scandinavie, on aime bien ce mot de viking. Ça représente une personne qui s'engage, qui n'a pas peur. Ces dernières années, les Vikings sont redevenus à la mode. Je voulais faire une belle course suédoise, mais nous avons eu beaucoup de demandes d'autres pays. Nous avons organisé cette course dans tous les pays scandinaves, en Russie et en France. Et nous prévoyons d'aller en Chine.
L'intérêt pour les Vikings a même été reconnu par la Commission européenne, qui a versé une importante subvention à Destination Viking. Cette association, basée en Grande-Bretagne, fédère toutes les destinations vikings autour de projets culturels. Elle a notamment monté un spectacle itinérant intitulé « Suivre les Vikings » qui a été présenté cet été en Suède. Gunn Bjørberg est l'une des actrices.
The show is about Egil Skallagrimsson.
Le spectacle est autour du personnage de Egil Skallagrimsson, un Islandais qui vivait dans les années 1050. C'était un grand poète qui a écrit beaucoup d'histoires sur les Vikings. Nous allons le jouer dans 15 endroits différents en Europe. Et nous sommes déjà allés en Norvège, au Danemark, en Irlande, en Espagne, en Pologne. Et maintenant, nous sommes en Suède, donc des pays où les Vikings vivaient, où on a une certaine vision d'eux, et des pays où ils venaient piller, où on a une vision différente. C'est vraiment intéressant, car dans tous ces endroits, les Vikings restent très connus. Les gens sont restés fiers de cette histoire.
Mais le destin des Vikings en Scandinavie ne se résume pas à une histoire pleine de rebondissements et à un folklore sympathique.
Notre goal, socialiste !
Nous sommes au beau milieu d'une manifestation néo-nazie organisée à Stockholm par le mouvement de résistance nordique, le NMR. Ce groupuscule très actif en Scandinavie a adopté comme emblème la rune nordique Tyr et considère les Vikings comme le symbole de la puissance et de la supériorité européenne. C'était aussi le cas du terroriste norvégien Anders Breivik, qui a massacré en 2011 des militants de gauche sur l'île d'Utøya, ou bien sûr des dirigeants nazis au siècle dernier, pour qui les Scandinaves étaient les purs descendants de la race aryenne. Cette appropriation des symboles vikings continue aujourd'hui, comme le constate Jonathan Lehmann. Ce journaliste d'investigation travaille pour la fondation Expo, un groupe de recherche antifasciste fondé dans les années 90 par l'écrivain Stieg Larsson.
Le thème viking est bien présent dans tout le spectre du nationalisme radical en Suède. Cela se manifeste à travers des symboles que l'on peut afficher comme des tatouages, des images que l'on met en ligne, des cérémonies religieuses. Il y a aussi ce rock viking qui est arrivé dans les années 90, qui ne parle pas explicitement de Hitler, ou du nationalisme socialisme, ou des races, mais qui fait cette description des combats, de l'héroïsme des vikings, et qui dit implicitement que c'est aussi notre combat d'aujourd'hui. Ce sont les vikings d'aujourd'hui. Il y a des organisations connectées à ces idées, et qui sont parmi les plus extrêmes, ouvertement néo-nazis. Mais il y a aussi bien sûr un intérêt bien plus large pour tout ce qui est viking en Suède, et dans d'autres pays. Avec cette série sur HBO, des choses comme ça. Et bien sûr, la plupart de ces passionnés ne posent aucun problème.
Mais les clichés ont la vie dure. Ceux qui s'intéressent aux Vikings, souvent, sont soupçonnés de sympathie, voire plus, pour ces thèses extrémistes. Un rapprochement que Johan, du groupe Alsingarna, dément avec force.
C'est quelque chose qu'il faut vraiment préciser. Il y a des groupes fascistes, racistes qui aiment s'habiller dans le style viking et qui veulent prendre en otage cet héritage historique. Nous, on ne fait pas ça du tout. On n'a pas un regard romantique sur la puissance viking ou sur la volonté de recréer ça, non. On veut juste s'amuser.
Même dénégation du côté de Fornshed, un groupe religieux et culturel pour lequel s'engager contre toute discrimination est d'ailleurs une condition d'adhésion. Ses membres, battant en brèche l'imagerie virile des guerriers nordiques, participent régulièrement à la Gay Pride, ce qui ne les empêche pas, comme Per Lundberg, d'arborer fièrement tous les symboles vikings, même les plus controversés.
Sur mon bras, j'ai le tatouage stylisé d'un dragon ou d'un serpent, un dessin que l'on trouve sur certaines pierres anciennes. Et sur mon t-shirt, il y a l'image du marteau de Thor sur lequel se trouve la rune Tyr, qui ressemble à une flèche pointée vers le ciel. Et c'est souvent que les gens me demandent si je suis d'extrême droite ou raciste, ce que je ne suis pas. Je défends d'autres valeurs. Ceux qui veulent suivre ce chemin sont les bienvenus, quels que soient leurs ancêtres, leur couleur de peau ou leur préférence sexuelle.
Their own sexual preferences.
Alors, qui peut aujourd'hui prétendre à l'héritage viking ? Force est de constater que ce débat est présent dans tous les pays scandinaves. En Norvège, pays dirigé pendant la Seconde Guerre mondiale par Vidkun Quisling, une marionnette de Hitler, fasciné comme lui par l'épopée viking, la question est même encore plus sensible. Elle est redevenue d'actualité en janvier dernier, lorsque l'équipe norvégienne de ski a présenté son uniforme officiel qui arborait cette rune controversée, Tyr. Certains athlètes ont refusé de le porter. La Fédération nationale a même dû refaire une séance photo avec d'autres vêtements. Pour Anders Gvall Rue, ces réactions ne sont pas les bonnes. Pour ce célèbre auteur de bande dessinée, qui dirige aussi le groupe de vikings chrétiens Olaf's Men, cette page noire de l'histoire ne doit pas empêcher les Norvégiens d'être fiers de leur passé viking.
Comme nous avons eu notre propre parti nazi, qui a été interdit après la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment une spécificité en Norvège dans la façon dont nous considérons ces symboles vikings. Toute connexion avec ces symboles est très vite stigmatisée. C'est très sensible. Pour moi, en tant que viking moderne, c'est vraiment douloureux de ne pas pouvoir utiliser par exemple le mot « Heil », notre vieux salut nordique, parce qu'il a tant été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me sens parfois fatigué de devoir à chaque fois m'excuser pour tout ça.
Mais c'est l'histoire, une fois de plus, qui pourrait bien trancher ce débat sur l'héritage viking. Dans leurs recherches les plus récentes, les archéologues dessinent en effet un portrait des vikings qui s'éloigne toujours plus de l'imagerie traditionnelle. Un portrait de guerriers qui étaient aussi souvent des guerrières. Un portrait de commerçants dont les liens, par exemple, s'étendaient jusqu'au monde musulman. Ce nouveau visage de la société viking, l'archéologue Anders Götterström vient de le compléter grâce à une recherche publiée en septembre dernier dans la revue Current Biology. Nous sommes dans son laboratoire de l'Université de Stockholm. Sur son bureau trône un numérus, un os du bras, vieux de 1000 ans, issu d'un cimetière viking de Sigtuna, une ville voisine de Stockholm.
Voilà un exemple de matériel sur lequel nous travaillons. C'est un os humain qui date de la fin de l'âge de fer. On a quelques sites vikings sur lesquels nous pouvons bien travailler. L'un d'eux, c'est Sigtuna. C'était la plus grande ville, en fait, la seule ville dans cette partie du monde. Et elle est toujours là. C'est un endroit qui a été fouillé depuis des années. Et cette première étude génétique porte sur 23 individus, tous de Sigtuna.
Anders Götterström utilise une technique qui révolutionne l'archéologie depuis maintenant une dizaine d'années. Il extrait l'ADN humain de vieux ossements et établit leur carte génétique. Et le résultat pour les anciens habitants de Sigtuna est plutôt étonnant.
On savait déjà que Sigtuna était une ville internationale, car on y trouve des objets importés qui ne sont pas produits localement. Mais quand on regarde d'où viennent ces 23 personnes, la moitié sont d'ici, un quart viennent d'une région plus étendue qui va du sud de la Scandinavie au nord de l'Europe, et un autre quart vient de beaucoup plus loin, l'Espagne, l'Europe centrale, la France. Nous nous attendions à une certaine diversité géographique, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Sigtuna était une sorte de Londres ou Shanghai de l'ère viking. Voilà ce que la génétique a apporté à l'archéologie, et on peut s'attendre à beaucoup d'autres découvertes dans le futur.
Le Conseil suédois de la recherche a lancé en 2016 un programme d'études sur 10 ans, avec un financement de 5 millions d'euros, baptisé le phénomène viking. Son but, approfondir encore nos connaissances sur cette histoire scandinave devenue aujourd'hui universelle. Viking, le retour, un grand reportage de Frédéric Faux, réalisation Pierre Chaffanjon.